Lémy Nousalem, bonjour.
Bonjour.
Pour écrire ce livre, vous avez rencontré quotidiennement pendant 3 semaines Abou Hafs al-Mauritani. Quel est son statut aujourd'hui ?
Alors, je ne connais pas son statut légal exactement. Est-ce qu'il est poursuivi, pas poursuivi ? Est-ce qu'il est sous surveillance ou en résidence surveillée ? L'essentiel, c'est que, de toutes les façons, j'ai le vu, j'ai l'impression qu'il est libre. En tout cas,
Il reçoit librement.
En tout cas, Nouakchott, oui. Et il vit assez confortablement dans un quartier chic de Nouakchott, d'ailleurs, au cœur du quartier diplomatique, dans une villa qui est coincée entre celle d'une famille de diplomates européens et du vice-président de la communauté urbaine de Nouakchott, et en face de la maison de l'ancien directeur de la sécurité d'État.
Mais visiblement, en tout cas, il n'a rien renié aujourd'hui de ses convictions religieuses. Pourquoi les autorités mauritaniennes le laissent diriger la prière dans une mosquée de Nouakchott ? Est-ce que vous savez si on lui a donné des lignes rouges à ne pas franchir ?
Je suppose, bien sûr. Pour l'anecdote, j'ai même assisté à une ou deux prières avec Abou Hafs dans la mosquée qui se trouve en face de chez lui. Son discours est celui d'un imam classique. Il ne parle pas de sujets sensibles. Il fait du prêche classique en conseillant aux croyants de respecter les règles de base de l'islam, la prière, etc., etc.
Vous le décrivez comme un homme sensible et courtois quand il se confie à vous. Mais vous dites aussi à la fin du livre avoir été soulagé de la fin de ces entretiens. Pourquoi ?
D'abord, puisque ce genre de sujet n'est pas évident à traiter, c'est très épuisant. Et passer 3 à 4 semaines à interroger un personnage comme Abou Hafs al-Mauritani, s'imaginer à tout instant que cet homme était le bras droit de Ben Laden, son ami intime, son confident, le tuteur de sa famille quand sa famille s'était réfugiée en Iran.
Mais ces 3 semaines sous tension.
Je ne dirais pas que c'était sous tension, parce que l'homme était quand même très agréable, très avenant. Mais j'avoue qu'il était très difficile par moment d'obtenir de lui des confessions. Et j'avoue que c'était, dans ma carrière de journaliste, c'était l'entretien le plus pénible que j'ai effectué.
La première rencontre entre Abou Hafs et Ben Laden a lieu sur le continent africain, à Khartoum, en 1992. Pourquoi ce Mauritanien séduit-il le chef d'Al-Qaïda ?
Alors moi, je pense qu'Abou Hafs, comme d'ailleurs bon nombre de Mauritaniens, a cette particularité d'être issu d'un milieu traditionnellement très ancré dans le savoir islamique. C'est une particularité de beaucoup de tribus mauritaniennes, bien avant d'ailleurs l'apparition des phénomènes du djihad et d'Al-Qaïda. Et je pense que ce garçon qui a fait toutes ses études dans une mahadra, c'est-à-dire dans une école coranique traditionnelle, je pense qu'il avait un savoir tellement immense qu'à son arrivée en Afghanistan, pour la première fois, il a dû impressionner sans doute son entourage et que sa réputation a atteint Ben Laden. Et d'ailleurs, c'est Ben Laden lui-même, qui ne le connaissait pas, qui demandera à ce qu'Abou Hafs vienne le rejoindre au Soudan en 1992, après avoir bien sûr entendu son entourage le plus proche lui faire les éloges de ce jeune Mauritanien.
Et il devient donc son conseiller spirituel, son moufti qui décide
son poète attitré, son moufti, son ami intime, au point d'ailleurs que toutes les grandes décisions prises par Ben Laden tenait absolument à y associer Abou Hafs.
Donc il est une référence, mais pas forcément toujours écoutée par Ben Laden. Et 10 ans après, leur première rencontre, c'est finalement la rupture, parce qu'il ne cautionne pas les attentats du 11 septembre. Est-ce que c'est ce qui lui vaut aujourd'hui, finalement, de ne pas être poursuivi, c'est d'avoir su s'éloigner au bon moment de Ben Laden.
Son parcours démontre qu'il a été toujours très prudent. Quand Ben Laden soumet quelques mois avant le 11 septembre l'idée d'une opération extrêmement importante sur le sol américain ou ailleurs contre les Américains qui pourrait éventuellement provoquer l'invasion de l'Afghanistan, Abou Hafs a tout fait pour les dissuader en utilisant des arguments religieux. Et quand il s'est rendu compte qu'il ne pouvait plus du tout convaincre son ami, il a pris ses distances, il a démissionné d'Al-Qaïda et il s'est installé auprès du Mollah Omar, dont il est devenu d'ailleurs un des principaux conseillers.
Le livre que vous publiez, Lémy Nousalem, sur Abou Hafs al-Mauritani a été rendu possible notamment parce qu'il a lui-même écrit ses mémoires dans lesquelles vous vous êtes plongé, ses mémoires en arabe. Est-ce que vous avez compris pourquoi il avait eu envie d'écrire, de raconter sa vie ?
Alors, je pense qu'Abou Hafs a écrit ses mémoires dans la mesure où il estime qu'il a été témoin d'un épisode de l'histoire qui a marqué le monde. Et Abou Hafs était au cœur de cette histoire. Mais je pense qu'il a beaucoup, ses ambitions pourraient bien dépasser tout cela, parce que j'ai remarqué dans ses mémoires qu'il a toujours eu de très grandes ambitions. Il s'est jamais contenté de jouer les petits rôles ou d'une situation très basique. On le voit gravir tous les échelons jusqu'à devenir le numéro 3 d'Al-Qaïda. Je pense qu'Abou Hafs aujourd'hui rêve encore de jouer un rôle. Et d'ailleurs, on le voit très actif sur les réseaux sociaux, dans les médias arabes, où il commente régulièrement ce qui se passe en Irak et en Syrie. On le voit aussi prendre position aujourd'hui dans le conflit opposant l'Arabie Saoudite, ses alliés et le Qatar. Et Abou Hafs prend par exemple position pour le Qatar. Est-ce que cela veut dire qu'Abou Hafs retrouve ses anciens amours, qui sont les frères musulmans, qui est le premier mouvement d'ailleurs politique dans lequel il a évolué très jeune? C'est une question, vu que les frères musulmans mauritaniens, à mon avis, constituent aujourd'hui la plus grosse force politique de ce pays, en dehors du parti au pouvoir.
Léminoul Salem, merci.